Tropicus.
Radio Tropicus.
Radio Tropicus.
88.3. Radio Tropicus. Radio Tropicus.
Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
Radio Tropicus. Radio Tropicus.
Avez-vous autre chose à dire, monsieur l'écrivain tout nu, ou pouvons-nous continuer notre route?
Radio Tropicus. Radio
Tropicus. Ce sont des êtres humains à part entière. Ils sont là pour permettre d'atteindre un nouveau stade de développement spirituel.
Ça alors, c'est incroyable.
88.3.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Coucou, il est midi sur Radio Campus Orléans, c'est Fatine et vous écoutez Écoute ta fac. Aujourd'hui, je suis avec Alexia au studio.
Salut.
Bonjour.
Salut Fatine.
Ça va?
Fatine the best, Fatinette.
C'est toi la best.
Sororité sur Radio Campus aujourd'hui. Seules les femmes sont présentes à l'antenne. Et
les boss.
Et en studio.
Ouais.
Ouais, les boss.
Et ça va?
Ça va, et toi?
Ça va. Très bien.
Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui dans Écoute ta fac?
Aujourd'hui, dans le programme, d'abord, je voulais prendre un tout petit bout de temps pour souhaiter un Ramadan Moubarak à toutes et à tous qui le font. J'espère que ça passera dans les meilleures conditions pour vous. Alors, dans le programme d'Écoute ta fac aujourd'hui, je vous propose une interview réalisée par Daniel avec Ludovic Amon, délégué régional du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique d'Orléans. Et puis un reportage de la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes et l'égalité des sexes et genres, avec le collectif féministe 45. Je vous laisse découvrir tout ça dans un instant. Et puis il y a toujours la musique et la programmation musicale de Radio Campus. Je vous lance Rhythm de Hannah Holland. Poup poup, bonne écoute.
We'll be right back.
sur Radio Campus Orléans 88.3. Tout de suite, c'est l'agenda du bouillon pour présenter les événements de cette semaine.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là ?
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien. Et
t'as passé de bonnes vacances ? Très très bien.
Oui, parfaite, super. Parfaite. C'était génial.
Bien sûr. Et ben, qu'est-ce qu'on a pour l'agenda ?
On a deux belles choses cette semaine. D'abord, ce soir, il y a une projection de film, projection documentaire qui s'appelle le film s'appelle Briser le silence des amphis. Et c'est de Lisa Heurtier. C'est un documentaire qui entre dans le cadre de l'agenda du mois de mars concernant la mission égalité et diversité, qui est pilotée par le vice-président de l'Université d'Orléans, délégué à l'égalité, la diversité, l'inclusion et la qualité de vie au travail, Didier Chavrier. Voilà, et ce documentaire revient sur les violences sexistes et sexuelles que les étudiants peuvent avoir subi dans les amphithéâtres des universités en France. Et voilà, il y a donc sa base de témoignages, voilà, des étudiantes qui témoignent, des doctorants, des membres du personnel, etc., etc. Ça touche vraiment tout le monde. Et donc voilà, c'est ce soir à 18h. Alors, il y a eu plusieurs horaires qui ont circulé, donc on démarrera pas avant que tout le monde soit arrivé, mais on démarrera entre 18h30 et 19h. Et ensuite, il y aura évidemment un échange à l'issue de la projection avec Didier Chavrier et d'autres intervenants pour discuter, évidemment, prolonger la discussion, la réflexion avec le public. Voilà, ça c'est ce soir. Et puis jeudi et vendredi, nous avons un spectacle qui s'appelle Olympicorama de Frédéric Ferrer, et donc année des Jeux Olympiques oblige, on accueille ce spectacle, cette conférence, spectacle-conférence décalée que nous offre Frédéric Ferrer, qui est un passionné et doté d'un humour dévastateur, passionné du sport, et puis qui va nous présenter le sport et l'olympisme d'une manière complètement décalée, assez drôle, presque glissant presque vers l'absurde. Et Frédéric Ferrer, donc Olympicorama, c'est une conférence sur le sport, et à chaque fois, il ne fait pas une conférence spectacle sur le même sport, et nous, en l'occurrence, nous avons l'insigne honneur d'accueillir d'avoir la gymnastique à l'honneur dans ce Olympicorama. Donc c'est le jeudi 14 mars. Alors je crois, si je ne m'abuse, que il y a deux représentations, le jeudi 14 mars, donc jeudi prochain, et vendredi à 20h30 jeudi et à 19h30 vendredi. Je crois que le jeudi, c'est déjà complet. Il reste des places pour le vendredi.
Et c'est le même spectacle les deux jours ?
C'est le même spectacle. Toujours sur la gymnastique.
Oui. Voilà.
Il sera question d'agréer, de prise d'élan, de pratique cap, de barre, de diagonale, etc., etc., de flic-flac. Bref, vous saurez tout. De manière humoristique et décalée sur la gymnastique. Olympicorama, c'est en partenariat avec le Centre Dramatique National d'Orléans, qui nous accompagne régulièrement sur des spectacles au bouillon. Et c'est gratuit pour les étudiants, il faut le rappeler quand même. voilà les trois événements de la semaine.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Vous
pouvez trouver toutes ces informations sur le site,
comme d'habitude, www.lebouillon.fr.
Exactement. Et on continue avec de la musique. Je vous lance Lemon Lullaby de Snow Apple. Bonne écoute. Even if you're jumping or a little bit lemon, how sad. Even if you turn pink or a little bit lemon, how sad. Even if you turn pink or a little bit lemon, how sad. Even if you turn pink or a little bit lemon. Ooh, 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 ooh Tout de suite, je vous lance l'interview par Daniel avec Ludovic Hamon.
Ludovic Hamon, délégué régional pour la circonscription Centre Limousin-Poitou-Charentes du CNRS.
Radio Campus 88.3, mardi 10 octobre, je suis dans les locaux du Centre National de la Recherche Scientifique à Orléans. Et ma première question va être, pouvez-vous nous raconter l'histoire du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique ?
Alors le CNRS a été créé en 1939, alors c'est vrai dans des circonstances un peu troubles de notre histoire, puisque c'était au moment où il y avait le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un événement qui a sans doute précipité la création du CNRS. Cette création, elle a été impulsée notamment par deux personnalités, Jean Zay, que les Orléanais connaissent bien, et puis Jean Perrin, qui était prix Nobel de physique. Mais il faut savoir qu'en fait, certes, sans doute que ça a été accéléré par la Seconde Guerre mondiale, mais dans les faits, c'était une réflexion qui était engagée depuis plusieurs années pour organiser la recherche scientifique en France. Donc c'est un processus qui datait de plusieurs années, et on a abouti donc à cette création en 1939 de notre établissement.
Parce que donc un enseignement avait été tiré de la Première Guerre mondiale où les chercheurs avaient été mobilisés et donc la France n'avait plus de chercheurs.
En fait, la volonté c'était plutôt de structurer la recherche, et la création d'un établissement permettait de contribuer à cette structuration, et il fallait mobiliser les forces vives dans le cadre de cette Seconde Guerre mondiale, et la structuration pouvait contribuer à faciliter cette mobilisation des forces vives au regard des enjeux de la guerre, quoi.
Alors, pouvez-vous poursuivre justement donc la naissance en 1939 et son développement alors ?
Bah, son développement, je pense qu'il passe à plusieurs niveaux. Hein. Petit à petit, il y a le nombre de laboratoires accru à l'échelle de l'établissement. On a la création des délégations régionales avec cet ancrage aussi sur le territoire. Il y a 17 délégations régionales aujourd'hui, et ces délégations permettaient d'assurer une représentation du CNRS au niveau local en accompagnement des différents laboratoires qui s'en sont créés au fur et à mesure des années sur l'ensemble du territoire national.
Et puis une loi en 82.
Alors cette loi en 82, elle vise à faire de l'établissement un établissement public, et donc les agents qui sont membres de cet établissement sont des agents de la fonction publique, donc fonctionnaires passage à un concours, quoi, un concours d'état. Voilà.
Alors quel est le rôle des délégations régionales ?
Alors une délégation régionale, je pense qu'il faut partir d'un peu de l'organisation plus générale de l'établissement. Donc on a une gouvernance du CNRS constituée d'un président directeur général, de trois directeurs généraux délégués, un directeur général délégué aux ressources, un autre à l'innovation et un directeur général délégué à la science. Et puis, au niveau du siège, vous avez des directions fonctionnelles, la direction des relations avec les entreprises, direction de la stratégie financière, d'autres directions, une direction d'affaires juridiques, 10 instituts qui contribuent à définir et animer la politique scientifique de l'établissement. Et puis, vous avez sur le territoire des délégations régionales qui sont chargées de représenter, d'assurer une représentation permanente du CNRS sur le territoire. Donc 17 délégations implantées sur l'ensemble du territoire. Alors quand on regarde un peu les circonscriptions couvertes par les délégations, ça ne correspond pas forcément à des régions administratives, puisque notre délégation, par exemple, c'est Centre Limousin Poitou Charentes, donc c'est la région Centre-Val-de-Loire et le Nord-Aquitaine. Donc représentation permanente, et puis aussi l'objectif principal d'une délégation, c'est d'apporter un support aux activités de recherche de nos laboratoires et faire en sorte que les laboratoires puissent pleinement se consacrer à leurs activités. Donc quand vous regardez l'organisation d'une délégation, vous avez un service financier, un service de ressources humaines, un service partenariat valorisation qui accompagne les chercheurs dans le montage de leurs projets pour obtenir des financements auprès de la Commission européenne, dans la relation avec les industriels. Un service communication, un service informatique, prévention et sécurité. Donc différents services qui sont là pour apporter un soutien aux laboratoires dans leurs activités de recherche, dans les différents pans d'activité que je viens d'énumérer.
Est-ce qu'on pourrait revenir justement sur les grandes missions du CNRS ?
Alors la mission première du CNRS, c'est de faire de la recherche pour faire avancer le front des connaissances. Ce qu'il faut bien comprendre, la particularité du CNRS, c'est que toutes les disciplines y sont représentées. Donc c'est cette force que l'on a dans notre établissement, c'est que pour résoudre une problématique scientifique, on peut mettre différentes disciplines autour de la table et trouver des solutions, mener des recherches autour de différentes hypothèses pour essayer de résoudre des problématiques scientifiques. Donc ça, c'est la grande force de l'établissement, c'est que toutes les disciplines, tous les champs de connaissances, ils sont représentés. Donc ça, c'est la première mission, faire avancer le front des connaissances, donc pour le progrès social et économique du pays. La deuxième mission, c'est une mission de valorisation. Donc on a des résultats de recherche qui sont développés au sein de nos laboratoires et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces résultats de recherche puissent bénéficier à la société. On a autour de la valorisation trois axes principaux. Un premier axe qui est la protection des résultats de la recherche. Donc le CNRS gère un portefeuille de brevets de 9000 familles de brevets. Ce qui fait que le CNRS est le sixième déposant de brevets en France. Donc ce qui fait qu'on est un acteur déterminant dans ce domaine. On a une activité qui vise à transférer ces résultats. Donc on a un brevet. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contrat d'exploitation pour permettre à une entreprise de venir exploiter ces brevets qui sont dont le CNRS est propriétaire. Et puis, on a une troisième voie qui est aussi le développement de partenariats avec les entreprises, donc des collaborations de recherche où un industriel vient avec une problématique et il souhaite qu'une compétence puisse l'aider, une compétence dans le laboratoire puisse l'aider à résoudre ces problématiques. Donc, ça peut être ponctuel. Et puis, on a des collaborations beaucoup plus longues. Ça peut être, par exemple, des laboratoires communs où on met des forces en commune dans un laboratoire avec ou sans mur. Et l'objectif sur une durée longue, 4-5 ans, c'est d'explorer une thématique qui constitue pour le laboratoire de nouvelles hypothèses de recherche, mais qui peut contribuer aussi au développement des entreprises à des fins un peu plus prospectives, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième mission du CNRS, c'est une mission de valorisation des résultats qui doit bénéficier au service de la société. Et voilà, faut reprendre, l'objectif du CNRS, c'est de mener une recherche fondamentale au service de la société. Donc ce qui illustre bien notre volonté de valoriser nos résultats de la recherche. Une troisième mission, c'est de donner accès aux résultats, aux connaissances. Le fait que les connaissances en fait, qui sont générées par nos laboratoires sont un bien commun. Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir les rendre accessibles aux médias, mais aussi au grand public. Donc c'est ça, c'est rendre accessible, partager ces connaissances qui sont développées au sein de nos laboratoires. Il y a une mission aussi de formation à et par la recherche. On a un grand nombre de jeunes chercheurs, de doctorants, de post-doctorants qui viennent se former dans nos laboratoires. Et l'objectif, c'est qu'ils deviennent des scientifiques. Alors soit pour qu'ils deviennent scientifiques au sein de nos laboratoires, mais aussi occuper d'autres fonctions dans des entreprises, par exemple dans des services de R&D des entreprises. Et puis, on a une autre mission qui là...
R&D.
Ouais, recherche et développement. Donc voilà, c'est des entreprises qui... qui ont un niveau de maturité en termes de résultats qui est peut-être plus élevé que celles qui sont dans nos laboratoires, mais qui vont vers des phases de développement pour permettre le développement de produits ou de services. Et notre cinquième mission, c'est une mission qui vise à concourir, on va dire, à la définition de politique scientifique partagée avec nos partenaires, que ce sont notamment les universités. On essaye, en lien avec, bien sûr, en lien avec l'État, les universités, de concourir à la définition de politique scientifique sur un territoire, alors, au niveau national ou à d'autres niveaux. Mmh. Voilà les missions de notre établissement.
D'accord. Et c'est par exemple dans ce cadre que peut s'articuler une coopération entre la région Centre-Val de Loire et la délégation régionale Centre-Limousin-Poitou-Charentes.
Alors en effet, on a conclu avec la région Centre-Val de Loire, en 2020, un accord de collaboration avec un accord de coopération avec la région. Cet accord de coopération, il présente différents axes. Notamment, il y a des axes qui vise à accompagner le développement de thématiques scientifiques qui sont différenciantes sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Si par exemple on parle de la cosmétologie, on sait tous que la cosmétologie est très présente dans le territoire, qu'il y a une activité de recherche qui est adossée à cette filière. Et c'est un axe différenciant sur lequel, par exemple, le CNRS et la région se sont mis d'accord pour faire en sorte, en lien avec nos partenaires, notamment l'Université d'Orléans, qu'il y ait un accompagnement, un investissement, une mobilisation pour faire en sorte que cette filière continue à être différenciante par rapport à d'autres territoires. Donc on évoque la cosmétologie, on a la même chose en entomologie. Alors je peux citer entomologie parce que c'est aussi une filière qui impacte l'ensemble de la région avec des laboratoires CNRS, des laboratoires de l'Université d'Orléans, de l'INRAE. Et là, l'objectif est aussi c'est de faire émerger une filière. C'est une filière qui est pleinement émergente, pleinement différenciante. Et là aussi, c'est d'essayer de structurer cette filière, tant d'un point de vue recherche que dans la relation avec le monde économique. Et de faire en sorte que cette différenciation, on la cultive et on l'exploite pour attirer de nouveaux acteurs sur le territoire. Mmh. Et puis, il y a d'autres activités qui sont prévues dans cet accord. On vise aussi à développer la diffusion de la culture scientifique. Donc, il y a ce type aussi d'orientation qui sont définies dans notre partenariat avec la région Centre-Val de Loire.
D'ailleurs, j'invite nos auditeurs auditrices à se référer à l'article en lien avec la diffusion de cette émission sur le site de la Rédac'Pop pour justement retrouver toutes les informations en lien avec les actualités des laboratoires de la délégation région Centre Limousin Poitou Charente. Hein. On y apprend plein de choses.
En effet, c'est vrai que on a dans nos laboratoires une richesse tant en termes de thématiques, puisque c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, le CNRS, toutes les disciplines y sont représentées, mais dans nos laboratoires aussi, on a différentes disciplines qui sont présentées. J'évoquais les insectes, j'évoquais la cosmétologie, mais on peut trouver aussi des sujets sur les archéomatériaux, donc des sujets assez variés. Donc on a une richesse dans les recherches. Et on a nos laboratoires qui ont cette capacité quand même à vulgariser et à rendre accessibles ces connaissances. Donc en effet, ça peut être intéressant pour le grand public de pouvoir prendre connaissance de ces actualités scientifiques parce qu'elles sont intéressantes et enrichissantes par rapport aux actualités. Parce que c'est vrai que quand on regarde aussi ces connaissances qui sont développées dans nos laboratoires, il y a souvent un lien avec l'actualité. Donc c'est vrai que ça peut aussi apporter un éclairage sur un certain nombre de sujets auxquels on peut être confronté dans notre quotidien.
Bien sûr. Voilà. Et cocorico, des fois, les trouvailles, les eureka poussées par les chercheurs ont eu lieu sur le site d'Orléans, avec notamment, vous le disiez, donc l'entomologie, la cosmétologie, les multimatériaux, mais on pourrait citer aussi la radioastronomie, la propulsion ionique, le traitement plasma, etc. Certaines personnes pourraient penser que les sciences humaines n'intéressent pas le CNRS, alors que si, vous travaillez aussi avec la LLSH, par exemple.
Oui, tout à fait. On a quand même tout un pan d'activités, et c'est pas la moindre, qui sont en sciences humaines et sociales. C'est une science à part entière. On a, par exemple, sur le campus, un laboratoire qui travaille sur les archéomatériaux. C'est très intéressant pour un laboratoire SHS de voir que ce laboratoire de sciences humaines et sociales, qui travaille notamment sur d'anciennes pièces de monnaie et qui utilise des équipements similaires à ce qu'on peut trouver dans un laboratoire qui travaille en chimie ou en physique. Et c'est ce type de laboratoire avec lequel on travaille. Il y a des laboratoires aussi, un laboratoire, le LLL, qui travaille sur les langues, avec lequel aussi il y a des actions. Donc on a en effet un pan d'activité en SHS qui est non négligeable à l'échelle du territoire. Il y a parmi les actualités scientifiques qui sont sorties récemment, tout un pan aussi de recherches qui sont menées, alors pas forcément sur le site orléanais, là, sur d'autres sites de la circonscription, mais sur les, tout ce qui est inégalité éducative, par exemple, qui sont un sujet important mené dans nos laboratoires actuellement.
Avec justement cet atout du CNRS de faire de la transversalité entre les sciences et les domaines de sciences.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, toutes les disciplines sont représentées au sein de notre établissement. Et donc, de ce fait-là, on est amené à avoir... On a cette force, même pas on est amené, on sait qu'on a cette force de pouvoir mobiliser différentes disciplines autour d'un sujet de recherche. Ça peut être le cas, par exemple, moi, je ne sais pas, en physique et chimiste, biologiste, on peut être amené à travailler ensemble sur un sujet donné, puisque on fait appel autant à des compétences de physiciens, de chimistes, de biologistes autour sur une thématique. Donc c'est vraiment la force de l'établissement, de notre établissement, c'est ça, c'est la capacité à faire parler des disciplines entre elles.
Alors, la délégation régionale Centre-Limousin-Poitou-Charentes, c'est 24 unités.
Oui, c'est 24 unités en région Centre-Val-de-Loire.
Voilà,
en région
d'accord. Centre-Val-de-Loire. Plus de 390 chercheurs.
Oui, tout à fait. On est à peu près, il y a un effectif d'environ 1000 personnes sur le territoire. Avec un nombre d'unités qui sont... Pratiquement toutes les disciplines sont représentées. Peut-être c'est un point important à souligner, c'est que... Pour les personnes qui ne connaissent pas l'organisation de la recherche, il faut comprendre que dans nos laboratoires, nous avons à la fois des chercheurs CNRS et à la fois des enseignants-chercheurs. Parce que la plupart de nos unités sont mixtes avec les universités. Donc vous avez dans les mêmes murs à la fois des chercheurs CNRS et à la fois des enseignants-chercheurs de l'université. Après, peuvent venir se greffer aussi des agents d'autres employeurs. On a par exemple un laboratoire sur le campus CNRS, l'ISTO, qui a pour tutelle à la fois le CNRS, l'Université d'Orléans et le BRGM. Un autre laboratoire où on a à la fois le CNRS, l'Université d'Orléans et le CNES. Donc on a au sein d'un laboratoire des agents qui ont des employeurs différents, mais dont l'objectif est de concourir aux activités de recherche du laboratoire selon la politique scientifique de l'unité.
Et comment se place le CNRS? Alors je ne parle pas de la délégation centre Limousin-Poitou-Charentes, mais le CNRS donc, enfin, national, au niveau international.
Alors le CNRS... est très représenté à l'échelle internationale. Il faut savoir que les chercheurs, leur activité est évaluée sur les publications, qui retranscrivent leurs résultats de recherche. Donc ces publications interviennent dans des revues scientifiques. Et le CNRS est le premier producteur au monde en termes de publications scientifiques. Et 60% de ces publications sont réalisées avec un laboratoire étranger. Et donc les principaux partenaires, quand on regarde ces publications, les principaux partenaires, ce sont les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais voilà, 60% des publications réalisées par les chercheurs du CNRS sont réalisées avec un laboratoire étranger. Donc on voit bien le rayonnement à l'international de notre établissement. Autre élément à prendre en considération, c'est dans le recrutement. 30% des chercheurs recrutés au CNRS sont de nationalité étrangère. Donc on voit bien que dans d'autres établissements, on a une configuration, un effectif scientifique qui est composé pour un tiers de chercheurs, de chercheuses qui viennent de pays étrangers. Alors, pour mesurer aussi, je pense, le rayonnement du CNRS à l'échelle internationale, il faut savoir qu'on est très implanté, on a beaucoup de laboratoires aussi à l'étranger, avec différents organismes mondiaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit au Brésil. Et puis aussi, on a des bureaux. Le CNRS est représenté à travers des bureaux à l'étranger, dans différentes zones géographiques du monde. Donc, le CNRS est très présent à l'international. Et vous avez donné les principales illustrations de cette représentation.
Alors, une question qui n'a aucun rapport avec la précédente. Comment s'opèrent les collaborations, les partenariats éventuels entre les différentes délégations nationales?
Alors,
comment les délégations régionales coopèrent-elles ou non entre elles?
En fait, les délégations régionales, donc, de toute façon, s'inscrivent dans la politique d'établissement, puisque notre mission, c'est de déployer la stratégie d'établissement à l'échelle locale. Donc, On a régulièrement des réunions à l'échelle des délégations régionales. Tous les délégués régionaux sont réunis une fois par mois pour échanger sur la stratégie d'établissement, faire part de nos difficultés peut-être dans le déploiement de ces stratégies. Donc on travaille en réseau. Il y a un travail en réseau des délégués régionaux qui couvrent le territoire. Et de même manière, à l'échelle des différents services de délégation, il y a des réseaux métiers, il y a des réseaux des différents métiers qui sont présents dans nos délégations. Donc là, par exemple, tous les services des ressources humaines, enfin les responsables des services des ressources humaines, là, sont réunis prochainement par la direction des ressources humaines du Sénat. Donc on voit bien qu'il y a un travail en réseau qui est fait avec un pilotage, une animation qui est faite par le siège, par les directions du siège, la gouvernance du CNRS, et puis un travail en réseau qui est effectué à différents niveaux, que ce soit au niveau des délégués régionaux, que ce soit au niveau des responsables de services. Donc un travail en coopération, en réseau, entre les différentes délégations régionales qui composent l'établissement.
Et alors, question beaucoup plus vaste, hein. Vous savez qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Comment se porte la recherche aujourd'hui en France ?
Je pense que...
Alors, d'une manière très globale et très générale.
Hein. Oui, parce que je ne suis pas scientifique, donc, mais pour autant, je pense que quand on regarde les résultats de recherche, je pense qu'il y a quand même un impact. Hein. Mmh. Les recherches qui sont menées dans nos laboratoires ont un impact. Il faut savoir que quand on regarde les classements à l'échelle internationale, notamment en termes d'innovation, le CNRS, je parle du CNRS en l'occurrence, il fait partie des établissements les plus innovants au monde. Donc de ce fait-là, on voit bien que l'impact des recherches menées par notre établissement sont importantes. Parce que ça amène un positionnement dans les classements mondiaux en termes d'innovation. Le CNRS a figuré parmi les premiers établissements innovants. Et quand on voit le nombre de collaborations qu'on a avec des partenaires industriels, avec des partenaires internationaux, on voit bien que la recherche française reste attractive, malgré tout ce qu'on peut entendre, la recherche française reste très attractive. Voilà.
Et c'est ce qui explique justement la réussite de cette recherche. Enfin, c'est donc l'aspect, on en a parlé tout à l'heure, l'aspect transversal, pluridisciplinaire, et puis cet aspect, c'est cette capacité à mettre en place des partenariats.
Moi, je pense que la force de la recherche, je pense que son organisation contribue. Hein. Le fait de pouvoir, d'une part, avoir une mixité des disciplines, avoir une mixité des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui travaillent ensemble dans un laboratoire, la formation, la recherche, l'innovation, ce triptyque aussi est important et concourt, je pense, au rayonnement de l'activité de recherche en France. Donc c'est tout cet ensemble qui est pour moi déterminant et qui contribue au rayonnement de la recherche française à l'échelle internationale.
Merci. On ne peut qu'inviter nos auditeurs auditrices à se rendre sur le site national donc du Centre national de recherche scientifique pour avoir accès à plein de publications, voilà, et plein d'actualités, et aussi plus précisément sur le site en lien avec l'émission tout à l'heure, je vous le disais, sur le pôle de la délégation Région Centre Limousin Poitou Charentes. Merci à vous.
Merci.
Et nous en continue avec une petite pause musicale. Je vous lance Six Feet Down de Tara Lily et Théo Crocker. Bonne écoute.
I know you now. It's a real life deal with the devil from now. Down, six feet down. Save me my baby, let me out. Don't put me down. No one can put me in my place. Don't put me.
Campus Orléans 88.3, tout de suite, une petite interview sur les droits des femmes et l'égalité des sexes et genres avec le collectif féministe 45.
Ok, alors je me retrouve avec le collectif qui est responsable de ce petit village sur Orléans. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu le collectif s'il vous plaît?
Alors le collectif féministe 45, en fait c'est des associations qui se retrouvent ainsi que l'intersyndicale, et nous avons décidé cette année de visibiliser tous ensemble les revendications des femmes et d'être présente le 8 mars.
Moi du coup je suis du planning familial, je suis bénévole au planning familial qui fait partie des associations présentes. Et l'objectif de cette journée c'était d'avoir à la fois la marche le matin.
Hommes, prenez nos postes. Hommes, prenez nos tâches. Vous verrez qu'ils doivent être mieux reconnus et mieux rémunérés. Et surtout, vous verrez que le monde a beaucoup de mal à tourner sans nous. Alors, le 8 mars, on arrête tout et tous.
La manifestation. Et puis l'après-midi, d'avoir ces stands avec les différents assos et les différents syndicats pour pouvoir visibiliser l'action de ce 8 mars.
Et c'est un collectif qui s'est monté spécifiquement pour cette journée ou c'est un collectif qui existe et qui perdure au-delà de cette journée?
C'est un collectif qui existe à peu près depuis un an et qui effectivement se rencontre pour les journées des dates, on va dire, des femmes, c'est-à-dire le 25 novembre contre les violences, le 28 septembre pour le droit à l'avortement et puis aujourd'hui le 8 mars. Pour le moment, c'est donc un collectif d'associations. Il y a aussi quelques personnes individuelles qui nous retrouvent et de syndicats, voilà.
Oui, je voulais justement venir à ça, à parler de ce petit village, parce qu'on a plein d'associations, de syndicats très variés. On a des étudiants, des associations étudiantes. Alors, j'ai entendu tout à l'heure en manif que c'était la première fois que ça se faisait comme ça.
Ouais, c'est la première fois que ça se fait comme ça. Et c'est une bonne chose parce que du coup, c'était ça dont on avait besoin, de réunir tous les acteurs qui luttent contre... pour les droits des femmes et contre les violences et contre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, d'ailleurs, mais c'est important, quoi. Voilà.
Et oui, ça donne une dimension intersectionnelle, en fait, à la lutte.
Ah oui, bien sûr. Oui. Pour nous, c'est important, en tant qu'association, effectivement, que cette dimension-là soit présente.
Sur l'organisation, il y a quelque chose qui m'a pas échappé tout à l'heure pendant la manifestation, c'est le soutien d'Orléans qui est absent à cette manifestation. J'ai entendu donc c'était Solidaire qui disait que c'est Bou qui a soutenu ce petit village et pas Orléans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
On n'a pas eu de réponse officielle, donc on a présupposé que c'était peut-être un petit peu trop politique, mais on a juste eu un refus du comité événementiel d'Orléans pour nous prêter autre chose que des rallonges et l'électricité. Mais on peut pas dire qu'elle est. Voilà, on n'a pas eu de raison ou d'explication officielle de la part d'Orléans. Donc après, il faudrait demander presque à Orléans, à Monsieur Grouard peut-être. Alors le droit des femmes, Monsieur Grouard, qu'en pensez-vous?
C'est bon, une question pour notre maire. Et le maire de Bou, lui, par exemple, lui, pourquoi il a accepté de vous soutenir? Il y avait une...
En fait, on n'en sait rien du tout, on le remercie, parce que tant mieux, quoi, voilà. Mais, et il nous permet effectivement d'exister avec deux stands magnifiques, et en particulier un stand important et grand pour permettre aux enfants d'être gardés par les compagnons qui s'occupent... De montrer que dans leur soutien, ils s'occupent des enfants pour permettre aux femmes d'exister autrement aujourd'hui.
Et ce stand permet aussi de mettre à disposition des supports de sensibilisation pour les enfants, mais pas que. Donc il y a pas mal d'affiches qui ont été déposées, notamment sur les métiers que peuvent faire les petites filles, les petits garçons, mais aussi les comportements qu'ils et elles peuvent avoir. Donc c'est important aussi d'avoir cette visibilité-là pour les enfants, mais encore une fois, pas que, parce que ce qu'on voit bien, c'est que la sensibilisation, l'information, elle est plus que nécessaire à tout âge.
Je me permets d'ajouter que surtout sur la question des violences, parce que c'est pas que la journée d'aujourd'hui, c'est les droits, mais sur la question des violences, les enfants, en fait, il faut leur parler le plus tôt possible de tout ce qui est le consentement, par exemple. Hein, on le voit avec les stades de l'inceste donc, et les violences sexuelles sur enfants, de toute façon. Mais voilà, c'est des, ce genre de choses qui sont importantes. Et puis de leur parler d'égalité et de bons comportements, enfin des comportements de l'avenir. Hein, on n'apprend pas que aux filles à dire non, on apprend aussi aux garçons à entendre le non.
Oui, il y avait un slogan, c'était éduquer nos garçons et stop aux violences aux filles, faites aux filles.
Même mon chien comprend quand je lui dis non.
Cette distance qu'ont les instances décisionnelles vis-à-vis de ces journées, on aurait pu s'attendre à, pourquoi pas, un stand de la part de la mairie ou de l'État, tout simplement, non ?
En même temps, si on parle de l'État, on l'attend toujours, la grande cause du quinquennat.
En même temps, si on parle de l'État, on attend toujours qu'il donne les moyens à l'école pour qu'effectivement on fasse de la prévention et auprès des enfants.
Cette semaine qui est assez particulière parce qu'on a eu la question de l'IVG qui a été introduite dans la Constitution. Donc il y a eu beaucoup de slogans aujourd'hui que j'ai vu sur non, ce n'est pas une liberté mais un droit. C'est aussi quelque chose que vous revendiquez en tant que collectif ?
Alors là, je veux dire, comme on est un collectif, on peut peut-être avoir des différences de sensibilité ou d'analyse. Là, je veux dire, un collectif, c'est ça justement. C'est-à-dire que c'est des associations ou des organisations syndicales ou politiques qui vont venir avec chacun leur sensibilité, mais qui par contre, sur les trois journées que j'ai citées, sont capables d'avoir quelque chose de commun pour se mobiliser. Donc moi, je ne peux pas parler au nom du collectif, surtout qu'on n'a pas eu le débat sur cette question-là.
Je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, comme le collectif est sur de l'organisation d'événements et qu'on est plusieurs instances, organisations, syndicats, associations à y participer, on a tous un petit peu nos identités propres et en fonction. C'est aussi ce qui fait que cette journée a été possible et ce qui permet d'avoir plusieurs stands. Si on n'avait qu'une identité, on n'aurait qu'un stand.
Et cette journée du 8 mars, voilà, y a quelque chose qui a aussi beaucoup revenu, c'est le fait que ça ne suffit pas, cette journée ne suffit pas. Mais pourtant, c'était important pour vous, en tant que collectif, là, pour le coup, d'être présente et présent pour aborder ces questions-là.
Oui, je pense que c'est ce qui est chouette sur cette journée et sur ce village associatif, c'est de pouvoir donner de la visibilité sur toutes les actions qu'on porte toute l'année. Tout l'accueil que peuvent recevoir les femmes et les hommes et les personnes LGBTQIA+, au quotidien, pour pouvoir parler de sexualité, de droit. Et ça permet en fait de pouvoir rendre visibles ces choses-là qui sont à disposition du public toute l'année. Et c'est aussi pour ça que cette journée, elle est importante.
Et puis c'est du côté des syndicats, je pense que c'est important aussi qu'ils reprennent en question ces revendications-là. Et là, c'était très clair, c'est une grève féministe, c'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait faire grève aujourd'hui pour faire avancer ces questions-là. Ça veut dire que petit à petit, y compris dans le monde syndical, on se bat pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, en particulier sur les salaires, sur l'emploi, etc. Et cette journée-là a permis vraiment de visibiliser ça avec cet appel de grève féministe.
Et puis sur les violences au travail aussi.
Petit tour du village en me baladant. Oui, c'est vrai, il y a cette crèche, mais il y a aussi des ateliers qui sont proposés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des différents ateliers, des différentes prises de parole d'aujourd'hui?
Oui, alors, y a plusieurs choses qui sont faites. Déjà, il y a des ateliers dans le stand enfant, des petits ateliers pancartes, des choses comme ça. Peut-être qu'on verra une pancarte. Moi aussi, j'ai le droit de jouer au foot dans la cour de récré. C'est déjà arrivé qu'on entende des enfants de primaire avoir ce genre de revendications. Et puis, il y a des blind tests féministes, il va y avoir une marge des privilèges, il y a des chamboule-tout qui ont été organisés. Donc, s'il y en a qui ont envie de se défouler sur Depardieu, venez. C'est encore temps.
Ça, c'est tout l'après-midi. Voilà. Ce sont le 8 mars, c'est pas une journée, hein, c'est tous les jours, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de souci.
Puis je pense que ce qui est intéressant là sur cet après-midi, c'est qu'il y a aussi un aspect presque festif, d'avoir des moments aussi avec la chorale. Il y a un blind test à 16h pour pouvoir fédérer autour de moments aussi joyeux, avec de la musique, des chants, pour pouvoir avoir un moment qui est fort
tous ensemble et pouvoir fédérer.
Fédérer. Et ce collectif, on vous retrouve où sinon est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues? Il y a d'autres mouvements qui sont prévus là prochainement ou...
Actuellement, là, dans les dates dont le collectif gère un peu l'organisation, ça va être plutôt septembre. Après, dans les associations ou organisations qui composent le collectif, on a le GAGL 45 qui organise très prochainement une marche des fiertés en mai. Alors, j'ai plus le samedi exact. Je sais que c'est un samedi, que c'est 14h et que c'est Place de Gaulle. Je n'ai plus la date exacte, mais voilà. Bien sûr, c'est des actions qui sont soutenues par le collectif puisque... Voilà. Mais j'ai plus la date.
J'ai un petit flyer.
C'est une action le 29 mars qui est organisée parmi les membres du collectif. Il y a le planning familial et il y a le GAGL 45 au 108. Et c'est une soirée santé sexuelle pour tous.
Et je vois qu'il y a Radio Campus en plus. Donc,
il y a Radio Campus, évidemment. Évidemment, il y a Radio Campus avec des ateliers, une table ronde, un blind test, un DJ set à partir de 18h au 108.
Très bien, bon, je crois qu'on a à peu près tout. Peut-être que vous avez un petit dernier message à faire passer à nos auditeurs et auditrices.
Réarmement féministe.
Écoute. Réarmement féministe, bien sûr. Je suis avec Hélène en studio.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va devenir ma signature.
Ça excusez-moi, va, Hélène ? Excusez-moi.
Oui, oui, ça va.
Ça va.
Par ce merveilleux temps de novembre.
De novembre.
Voilà. Bah oui, il pleut des cordes, enfin presque.
Oui.
Des cordelettes pour l'instant.
J'en ai marre.
J'en ai marre. J'espère toujours pouvoir grandir, mais bon. Voilà, voilà.
Alors, tu viens aujourd'hui pour partager avec nous tes insolites.
Oui. Si, un petit peu.
Oui,
il y a un petit peu de temps. Bon, si j'ai voilà, je vais essayer de vous en dire trois, sinon, on verra bien. Le premier, c'est en Inde. Donc, en Inde, il y a un pigeon. Oui, du pigeon. Le pigeon est partout, hein, le pigeon est partout. Il n'est pas que parisien, il peut aussi être en Inde. Il a été relâché après 8 mois d'enfermement. Il vient d'être blanchi. Okay. De quoi me direz-vous pour un pigeon? La police avait ouvert une procédure pour espionnage, car il était porteur d'un message illisible, donc une potentielle menace. Ah oui, 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 on rigole pas avec le pigeon porteur de mots illisibles. À savoir, en fait, les arrestations de pigeons en Inde ne sont pas rares, car depuis 2006, il avait été trouvé un message de menace contre le Premier ministre. Donc maintenant, tout pigeon porteur de mots illisibles en tôle. Voilà, on n'arrête pas le progrès, comme dirait l'autre. On se déplace un petit peu vers l'est, on va en Indonésie. Okay. Donc sur un temps de vol de 2h30, donc en avion, qui allait du Sulawesi au nord du pays à la capitale Jakarta, eh bien pendant 30 minutes, comme on dit, il n'y avait plus de pilote aux commandes. Donc ils ne sont pas sortis se promener, hein, parce que... Okay. Environ une demi-heure après le décollage, il y a le commandant de bord qui a demandé à son copilote l'autorisation de se reposer un petit moment. Donc ça, ils sont deux, donc effectivement, il y a un des deux qui peut aller se reposer. Donc le copilote a pris les commandes de l'avion, mais il s'est lui aussi endormi par inadvertance. Donc à peu près 28 minutes après la dernière transmission enregistrée, le pilote, qui légalement était parti dormir, s'est réveillé, s'est rendu compte que son copilote dormait aussi, et surtout que l'avion n'était plus vraiment sur la bonne trajectoire.
Ok.
Voilà. Donc il a redressé tout ça. Bon, fort heureusement, il a corrigé, l'appareil s'est bien posé sans encombre avec ses 160 passagers. Mais néanmoins, il va peut-être falloir qu'il passe à 3 pilotes dans les avions parce que ça devient dur. Non, mais bon, il les pousse, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de récupérer entre deux vols. Résultat des courses, ils dorment au boulot.
Même s'ils sont 3, ils vont tous dormir.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
On sait jamais. Ce qui veut dire aussi que, comme il s'est endormi, il n'a pas mis le pilote automatique, si on va par là.
Oh.
Bah oui. Sinon, il ne serait pas sorti de sa trajectoire. Oui,
c'est vrai.
Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de montagnes par où vers Jakarta, mais bon.
Je ne sais pas.
Heureusement, ils n'ont rien rencontré. On va revenir plus proche de nous, en Irlande.
Ok.
Quand nous vous disons qu'il faut être vigilant par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à vos écrits et surtout les photos qui y sont publiées. À cause d'une parution, il y a une Irlandaise de 36 ans qui vient de perdre 760 000 euros. 760 000 euros, ce qui, bon, voilà. Cette somme devait couvrir des dommages et intérêts pour des blessures consécutives à un accident. Elle a eu un accident de voiture, bon, et donc elle a fait jouer son assurance. La jeune femme souffrant de blessures au dos et au cou, on va dire en quasi-invalidité. Mm-hmm. Bon. Et les juges étaient en train de prendre leur décision finale pour lui accorder ces 760 000 euros. Or, ils ont eu entre les mains des photos de la plaignante publiées sur les réseaux sociaux, devenue championne de lancer de sapin.
Sapin.
Un très grand sapin de Noël, naturel, qu'elle lance d'un mouvement très agile.
Ok.
Donc, elle a justifié sa participation au concours de lancer de sapin par le souhait de conserver une vie normale, malgré son état physique. C'est sûr, nous lançons tous des sapins pour garder notre état physique normal. Donc, quand je vous dis les réseaux sociaux, faites gaffe. Elle était toute contente de dire « Ouais, j'ai gagné !» Oui, mais les juges, ils l'ont vu aussi. 760 000 euros. Ça fait cher le sapin. Hein. Ça fait cher le sapin. C'est, hein, quand même. C'est, voilà. Bon, c'est pas fou comme insolite. J'essaierai de vous en avoir d'autres.
Yes, bah on est plus bien. Peut-être demain.
Peut-être demain.
Oui. Et ça serait tout pour notre émission d'aujourd'hui.
Eh oui, il est déjà 12h56. Ouais.
Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.
Même punition.
On est toujours là.
Même punition.
Et je vous laisse avec Diane, Solal Version Finale. Merci. Bye bye.
Bye bye.